la pause maternelle. Bonjour et bienvenue dans la pause maternelle sur Macalade, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Cette émission est destinée aux mamans pour parler sans tabou de sujets en lien avec la maternité qui peuvent toutes nous toucher. Le but de cette émission est de leur permettre de témoigner de leur vécu. Chaque mois, nous recevons le témoignage d'une maman en direct ou de manière anonyme et nous échangeons avec elle autour de son expérience. Je suis Elodie, doula sous le nom de Doucela. Et je suis accompagnée de Lucille, musicothérapeute clinicienne au cabinet Les Sons Naissance. Salut Lucille, comment ça va ?
Ça va super bien et toi ?
Ça va, merci. Un petit peu enrhumée, mais ça va.
Ah, c'est la fin, c'est bientôt la fin du mois de janvier, ça va bien se passer.
C'est ça, ça va y aller.
Bon alors, qu'est-ce qu'on reçoit aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous recevons Clotilde. Bonjour Clotilde, comment tu vas ?
Bonjour, ça va et vous ?
Ça va. Ravie de te recevoir.
Ah, je suis ravie d'être là, merci vraiment.
Avec plaisir. Donc Clotilde, elle a voulu venir témoigner de sa maternité. Clotilde, tu es maman de 2 enfants.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Et un bébé qui est mort, il y a eu une interruption de grossesse.
Oui, en fait, je suis maman de 3 enfants,
ouais.
Dont une interruption de grossesse.
Oui.
À 3 mois.
Ok, je te laisserai nous en parler si tu le souhaites et je te laisse commencer.
D'accord. Alors, j'ai toujours eu des très, très belles grossesses. Mm-hmm. Voilà. Et les accouchements ont toujours été très, très catastrophiques.
Alors, moi, j'avais peut-être une première question. Comme ça permet de redescendre un petit peu au niveau. Voilà.
Merci.
C'est quelle est l'idée qui fait que tu es entrée dans la maternité ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps voilà. Je trouve que c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a eu envie ou besoin ou ce désir. Ou, voilà. Qu'est-ce qui fait que du coup, tu as eu envie d'être maman à un moment donné
Alors là, comment te répondre Je pense que c'est plus le fait sociétal.
Ok. C'est-à-dire
qui m'a donné envie d'être maman. Parce que j'avais des copines autour de moi qui sont devenues mamans. Et j'ai dit, ah, moi aussi, finalement, j'ai ce besoin, j'ai cette envie.
Oui, par mimétisme, tu veux dire ?
C'est ça, ça n'a jamais été un besoin profond.
D'accord.
Et je ne pensais même pas devenir maman. Et en fait, avec mon conjoint, tout allait bien. Et on a dit, allez, on se lance.
D'accord.
Pourquoi pas ? Et je suis tombée enceinte très très rapidement. On était allé voir un médecin qui nous avait dit attention, vous allez peut-être naître 1 an et demi, 2 ans. Mm-hmm. Et en fait, non, c'est arrivé plus vite que prévu. Et la grossesse, super. Vraiment, on était bien. On était contents. Après, l'accouchement était très catastrophique, donc on est un peu tombés des nues.
D'accord.
Et comme notre fils est parti dans un autre hôpital, parce qu'il a failli, il a été à 1 sur 10 en respiration, il a failli mourir.
Ah oui.
Du coup. Tes parents sans être parents, en fait. T'as pas ton enfant à côté de toi. Et mon conjoint comme moi, on a eu du mal à nouer un lien avec notre fils.
Oui, parce que ça a été cassé. Ça a été un petit peu désorienté dès l'accouchement, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment ça s'est passé, justement, cette brisure un peu du lien au départ ? Parce que la grossesse, donc, s'est bien passée. Les rendez-vous se sont bien passés.
Très, très bien.
Mais il a dû être... c'est à l'accouchement que, du coup, il a eu une détresse respiratoire ?
En fait, il y a eu 2 ralentissements cardiaques. Déjà, le soir, c'était un mercredi soir, j'ai dit à mon conjoint, j'ai très, très mal, il faut qu'on parte. Donc, on est parti et j'étais là, il y a un truc bizarre. Je sais pas, je suis incapable de mettre des mots dessus, mais il y avait quelque chose de bizarre. Et le médecin m'a dit non, mais c'est bon, ça va aller, vous revenez dans 48 heures, on vous garde en observation. Il y a eu 1 ralentissement cardiaque de la part du bébé. Ils ont dit bon, on va voir. 2e ralentissement, ils ont dit allez, césarienne, mais ça va aller, tout va bien se passer. Et derrière, notre fils, donc il y a eu césarienne, moi j'étais vraiment très shootée, j'ai rien suivi.
D'accord.
Mon conjoint, lui, il a tout vu.
Et était encore à côté, du coup.
Il était encore à côté. Okay. En fait, pour eux, c'était une césarienne dans l'urgence, mais pas assez urgente pour le mettre de côté.
D'accord.
Ils ont dit, venez avec nous. Moi, le monsieur m'a fait la piqûre dans le dos. Tout allait bien. Et d'ailleurs, c'est sûr, c'est au moment où le monsieur m'a fait la piqûre dans le dos que j'ai dit, mon fils s'appellera Alexis. Enfin, notre fils s'appellera Alexis. Pour moi, c'est comme il m'a demandé, il m'a dit, votre fils, ton fils, je ne sais plus comment il m'a demandé, mais vous allez l'appeler comment ? J'ai dit, ce sera Alexis.
Comment tu l'as senti que ça allait être son prénom, ça? Vous aviez déjà évoqué des prénoms ensemble?
Alors, on a mis 9 mois à trouver un prénom.
Non, c'est super dur.
Et une semaine avant, on s'est dit, mais on n'a toujours pas le prénom. Et c'était Alexis ou Thibaut.
Okay.
Et le jour J, on a dit Alexis. Et quand mon conjoint m'a rejoint, j'ai dit, ce sera Alexis. Il m'a dit, OK. Mais c'est quand on est sur table d'accouchement, généralement, ils négocient pas les hommes.
Non, à ce moment-là. Et ça, c'est peut-être bien de le préciser. Ouais. Mesdames, si vous avez des choses en attente, là, le jour de l'accouchement, ça peut quand même être quelque chose à... Non, on plaisante. Faites pas ça, c'est pas bien.
Mais un petit peu quand même.
Mais du coup... ce qui s'est passé, la césarienne, j'ai rien senti, Dieu merci. Mais... notre fils, oui, ils l'ont sorti et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, il avait inhalé le liquide amniotique et ses selles. Et du coup, il
d'accord.
respirait pas.
Okay.
Donc, ils l'ont vite emmené, mais ils ont géré la chose, mais c'était magique. Mm. Et on l'a vu en couveuse et il est parti. Et ce qui fait que pour moi, il y a une armée d'anges gardiens pour mon fils, c'est qu'il est né à minuit. À minuit, il n'y avait personne sur la route. Ils ont pu l'emmener à l'hôpital de la Croix-Rouge.
Et c'était donc à Lyon, ouais, ok.
Voilà, là, j'ai accouché à Arnas. Et donc, il a été à la Croix-Rouge.
Ok.
Et 3 jours après, il y a une infirmière, mais... Enfin, c'est des gens magnifiques, c'est des gens... C'est magnifique, parce que là, la personne, elle m'a trouvé une chambre à la Croix-Rouge. Elle s'est démenée, elle a appelé tout le monde. Elle était là, mais il y a une maman qui vient d'accoucher. Son bébé est à la Croix-Rouge, elle est à Arnas. Il faut faire quelque chose.
Et j'avoue, je suis désolée, hein, mais souvent sur la pause maternelle, on a parlé de ça pouvait être difficile avec le corps médical, patati patata. Mais j'avoue, là, qu'est-ce que je suis contente d'entendre qu'il y a des personnes qui se... Enfin, en fait, il y a des personnes qui se démènent. Oui. C'est pas, il y en a quelques-uns, c'est des personnes qui se démènent. Après, il y en a certains, il y a toujours du cafouilla, quoi. Je veux dire, à un moment donné, dans n'importe quel métier.
Oui, c'est ça.
Et de reconnaître que, voilà, il y a des gens qui font vraiment un travail merveilleux et de l'entendre de ta bouche, Clotilde, je trouve que c'est encore plus probant.
Voilà. Ah oui, ah non, c'était. Et il y en avait une sage-femme qui nous avait accompagnés, donc Marilyn, depuis elle est partie à la retraite. Je me souviens, elle m'avait dit « Bon, on se voit demain avec votre bébé dans les bras. » Et quand on est revenu, donc on allait voir notre fils à la Croix-Rousse. Quand on est revenu le soir même, il était super tard. Et elle m'a dit « Bon, OK, il n'y a pas de bébé, mais ça va aller. » Enfin, il vous pousse. Et en plus, j'ai trouvé ça gentil, c'est qu'elle lui avait gardé un plateau repas pour mon conjoint. Tous les deux, on arrivait à 9h, on était déprimés au plus bas. Et elle nous accueillait avec chacun un plateau repas. On a parlé. Après, il y a des psychologues. Enfin, et puis aussi bien les mamans que pour les bébés, c'est toute une équipe qui se démène, qui sont là pour vous, quoi. Okay. Et c'est magnifique, vraiment.
Parce que l'accouchement, du coup, c'était où? C'était à l'hôpital femme-mère-enfant? C'était
Non, j'ai accouché à Arnas.
À Arnas, et ensuite, ok, d'accord.
Et après, il a fini à la Croix-Rousse.
Okay.
Et après, moi, j'ai dû partir de la Croix-Rousse.
D'accord.
Parce qu'on m'a dit que je prenais une chambre et que ça n'allait pas. Donc là, c'était une moins sympa.
Oui, là, à ce moment-là, quand l'administration revient dans le truc, c'est un petit peu délicat.
Après, il faut rappeler que la Croix-Rouge, c'est quand même c'est une très grosse structure qui brasse énormément d'accouchements. Donc après, ça n'excuse pas le fait de mettre les mamans dehors. Mais...
C'était compréhensible. Voilà. Mais d'un côté, on a fait les
alertes. C'est assez violent quand tu le reçois. Moi,
oui,
ça m'est arrivé dans un autre hôpital que je ne citerai pas.
Ouais.
Parce que voilà, j'ai pas envie de leur faire de l'ombre ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que sur le moment, quand tu viens d'accoucher ou que t'es dans un moment, c'est un petit peu violent.
Il faudrait mettre un peu plus de rondeur.
Mais en même temps, comment est-ce que tu veux faire? Ils peuvent mettre vraiment des rondeurs et en même temps, et c'est vrai qu'ils ont besoin de lit, en fait.
Oui,
ils ont besoin de lit, je répète. Ils ont besoin de lit. Donc,
besoin de personnel, besoin
voilà,
de...
Voilà, s'il vous plaît, faites quelque chose.
Mais à côté, vous voyez, je suis partie et on faisait tous les allers-retours. Et moi, j'ai été dépassée. J'ai dit, il faut que j'aille faire les piqûres antiflébites. Je savais même pas qu'il fallait faire ça.
D'accord.
Et c'est le médecin, une des médecins qui me recevait à la Croix-Rousse. Elle avait pas à le faire, mais elle m'a dit, je vais vous le faire. Tous les jours, elle me faisait les piqûres.
Voilà.
Elle avait même son supérieur qui est passé. Elle lui a dit, t'as rien à dire. Madame, elle a son bébé en haut, c'est comme ça. Et j'ai trouvé ça super gentil, quoi. C'était naturel.
C'est même pas, tu vois, c'est derrière le mot gentil. En fait, il faudrait juste remettre humain. C'est ouais, juste c'est humain.
Exactement.
C'est juste une preuve d'humanité, le plateau repas pour le papa et même pour toi, juste d'avoir quelque chose qui est là et qui c'est prenne ça. Soin des parents. Parce que si on prend soin des parents, on prend soin
du bébé
et inversement. Enfin, je veux dire, c'est une équipe après qui va se retrouver seule chez elle et qui aura besoin en fait d'avoir eu tout ce soutien-là. On est dans un moment, en plus, au moment de la naissance d'un enfant, même avant, de fragilité, en fait. On se sent très, très forte et tout ça, avec notre bébé, tout se passe bien et tout ça. Mais après, il y a un moment qui est pas long, mais où on se sent un peu fragile, où on se sent un peu dans ce truc-là. Et le papa aussi, les papas aussi. Oui. Donc, oui. Prendre soin d'eux et qu'ils dorment pas par terre ou juste dans des chaises longues ou des machins où c'est inconfortable tout le temps du travail ou juste après et compagnie. Waouh, c'est quand même déjà... C'est déjà faire preuve ouais, d'une grande humanité, oui. En fait.
Après, les choses, elles évoluent, mine de rien. À la maternité de Villefranche, par exemple, ouais. qui est publique, ils ont le label « Amis des papas » et ils font en sorte de pouvoir accueillir le papa dans la chambre. Alors, c'est sûr que c'est un lit d'appoint, c'est pas... Mais il y a quand même le nécessaire pour le papa.
Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre quand même qu'on ait besoin d'avoir un label ami des bébés, ami des mamans et ami des papas? On a besoin d'avoir des labels ouais. pour pouvoir se dire que prendre soin des autres, enfin, ça devrait être naturel.
Oui.
Ça devrait être naturel. Ouais, nos enfants le font.
Ouais, mais c'est pas la majorité.
Et si c'est pas la majorité, c'est qu'il y a un problème structurel là-dedans.
Carrément.
Enfin, ça pour moi là, on dénoyote le truc, c'est-à-dire qu'il y a un problème fondamental dans notre société qui est le manque d'empathie et d'humanité oui. et qui fait qu'après on a besoin de se rajouter de manière marketing un label ami des bébés. Amis des mamans et amis des papas.
Amis politiciens, si vous nous entendez.
Non, mais...
mais oui.
Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, quand on est accompagnant, on fait d'une certaine manière de la politique.
Oui.
Mais pour moi, c'est quand même quelque chose que je trouve... voilà, je serai toujours là pour dire, il n'y a pas quelque chose de bizarre
ouais.
Oui, oui, parce que je pense que, déjà, ne serait-ce que se poser la question, ça permet d'envisager les choses autrement. Le prochain step qu'on va faire, ça va être quoi, du coup, pour pouvoir... valoriser ce truc-là. Nous, on est accompagnante. Qu'est-ce que ça va être notre prochain pas ? Et Clotilde, qu'est-ce que ça va être aussi son prochain pas ? Enfin, voilà. Je trouve que c'est important, en fait, de se poser cette question-là. En tant qu'être humain, après. Même pas dans nos fonctions respectives. Juste en tant qu'être humain, on fait quoi ? Et je trouve que c'est un magnifique témoignage. Moi, j'écoute pas les témoignages avant. Parce qu'Élodie, elle les reçoit avant pour expliquer comment on prépare l'émission. Donc, parce que j'aime bien arriver fraîche et que du coup, de poser des questions qui sont naturelles et de gérer tout ce qui est émotionnel et tout ça. Mais du coup, Élodie, elle a toute la structuration derrière. Donc moi, du coup, des fois, je lui bazarde son plan. Mais...
ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire, enfin, je les reçois avant, mais des fois, ça n'a rien à voir avec le fond de l'émission. Enfin... avec l'émission finale, c'est ça qui est génial.
C'est ça, c'est que je suis un peu le chien dans le jeu de quilles. Alors, pour en revenir à toi, Clotilde, du coup, donc, on s'était arrêté au médecin qui t'avait fait donc, l'épicure voilà, pour éviter toute phlébite et compagnie. Donc, vous êtes rentrée avec le bébé et ça s'est bien passé. Vous êtes rentrée au bout de combien de temps avec ton petit ?
Je dirais 15 jours. Il est même sorti en 29 février.
Oh, punaise. Ah oui.
Le 29 février, on nous dit, vous allez sortir le 29. On dit, waouh, c'est tous les 4 ans, le 29, et c'était magnifique. Et j'ai souvent tendance à dire, c'est magnifique.
Mais, ouais. Mais c'est magnifique, mais c'est pas grave. Moi, je parle beaucoup de liens, on a chacun nos tocs, c'est pas grave.
Et du coup, quand tes parents, la première fois que t'as été séparé de ton bébé, je trouve que ça a été long à se mettre en place. Le lien, à instaurer le lien. Mais on avait énormément d'amour pour notre fils, et ça, c'est... Bah, oui, il va bien, tu vois, il a 10 ans, et il négocie bien, il est bien dans sa peau, à peu près.
Oui, comme mais... un enfant de 10 ans, des fois, voilà. peut avoir certaines questions.
Après,
et...
ouais. après le lien et l'amour qu'on a pour notre enfant, c'est deux choses différentes.
Oui, on a de l'amour, mais c'est... Ouais, je trouve que c'est difficile de créer le lien, parce qu'il a été cassé dès le début.
Oui, c'est...
Et on a vu un thérapeute, il y avait les sages-femmes qui nous suivaient, mais la sage-femme de la PMI... il n'y avait pas de relationnel comme j'ai eu avec la sage-femme qui m'a suivie pendant ma grossesse. Par contre, le médecin, il prenait des nouvelles, les infirmières aussi. Enfin, il y avait
C'est pour ça que c'est important de ne pas parler que d'amour, mais de parler de lien, de relation aussi à l'autre, en fait. Parce qu'on a beau les avoir portés, avoir un amour profond pour eux, on ne sait pas d'où ça vient, mais on tombe en amour hein, avec ces petits machins-là. Mais en fait, on peut ne pas savoir comment tisser ce lien. Et ce n'est pas du tout la même manière de faire. Est-ce qu'on a besoin d'outils ? Là, ça rentre dans l'éducation qu'on a reçue, l'éducation qu'on a envie de mettre en place. En fait, on n'a même pas forcément le temps d'avoir réfléchi à ça, surtout dans les circonstances que vous avez pu avoir. Ça met de toute façon du temps, en fait, pour créer une relation où, du coup, comment est-ce qu'on va parler à ce petit être ? Comment on va mettre en place les choses ? Enfin, ça se négocie quand même d'être parent. C'est quand même quelque chose, c'est un virage qui est vertigineux à prendre aussi, donc à être dans le soin et dans cette relation. Je trouve que du coup l'équipe qui aient pu continuer à t'appeler, à soutenir et tout ça, je pense que voilà, ça envoie de la force en fait pour pouvoir.
Ils étaient là s'il y avait besoin, fallait pas hésiter. Par contre, par la suite, on s'est rendu compte que le lien, on l'avait créé, mais pas entier, et tu vois, on a dû l'emmener voir une personne qui fait des réflexes archaïques, qui l'a vraiment aidé à s'ancrer. Mais on a attendu, on l'a fait, il avait 7 ans et demi, 8 ans. Parce qu'on ne savait pas ce côté-là. On savait qu'il était un peu déconnecté. Et elle nous a dit, en fait, il n'y a pas le lien. Le lien est là, mais il n'est pas complètement ancré.
Il n'est pas solide pour lui.
Voilà, c'est ça.
Alors, il y a aussi un truc, moi, que j'invite les mamans à faire, et les papas aussi, d'ailleurs. C'est quand il y a eu une difficulté avec le lien, c'est de pouvoir dire à l'enfant, de pouvoir prendre un temps et de lui parler. Avec tout ce qu'on a vraiment envie de dire et parfois de demander pardon, juste pour dire pardon, parce que là j'y arrivais pas, je savais pas comment faire, on va essayer de faire ça ensemble. Voilà, moi je sais que ça a pu m'arriver avec un de mes enfants et où j'ai pu lui dire, et parce qu'il pleurait énormément au début, ça avait été très difficile de faire le lien. Et en fait, un soir, je lui ai parlé et il s'est arrêté de pleurer, il m'a regardé et ça y est, c'était fini. Juste parce que voilà, il y a cette mélodie, on va dire, de la parole, de se poser et de dire ce qu'on a aussi au fond du cœur. Et là, il s'est posé. Je parle pas d'un truc psychomagique, quoi. Juste d'entrer vraiment en relation avec son enfant et de dire ce qu'on ressent. Je sais que il y a beaucoup de personnes, oui, mais si je lui dis ce que je ressens, même quand ils ont 30 ans, 40 ans, j'en ai entendu dernièrement qui pouvaient me dire ça, ils vont se foutre de moi, ils vont se moquer de moi, ça fait pas partie de ma génération. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est ce que votre cerveau vous raconte.
Ça n'empêche pas de casser les schémas qu'on a.
Mais justement, j'incite pas à casser, j'incite à rentrer en relation en douceur. Oui. Donc, dire les choses, c'est la peur, en fait, qui nous fait des fois reculer et pas dire. Et comme c'est douloureux, quand du coup on n'a pas la possibilité que ce lien se brise véritablement, que l'enfant n'est plus là parce que le lien n'a pas pu être fait correctement, ou que nous, on part avant et que l'enfant reste sans avoir eu véritablement de relation avec son parent, ça c'est très dur aussi après. Et c'est beaucoup de temps en thérapie ou alors à pas savoir, à pas être ancré justement. Donc aller voir une thérapeute qui fait du coup ce travail autour des réflexes archaïques, mais aussi qui peut travailler sur le soin relationnel et compagnie, c'est vraiment important. Le travailler en amont, il y a un travail sur vous, mais il y a un travail de cette relation aussi. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas appris dans notre société. On en parlait, parce que voilà, on parle de tout ce système et de comment c'est, mais parler de la relation, parler de son ressenti, c'est pas quelque chose qui va nous rendre faibles. Par contre, ce qui nous affaiblit, c'est si on n'en parle pas, on va aller chercher nos besoins, on va avoir une espèce de faim qui va nous tirailler et on va aller chercher ce besoin de relation et du coup, ça va se transformer en besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être perçu, d'être entendu, de vouloir prendre une place des fois et de vampiriser l'autre sans s'en rendre compte. On va être dans une forme de prédation. Donc, prendre soin de ce lien, c'est pas n'importe quoi.
Ouais, tout à fait. Voilà. Et puis, moi, j'aimerais revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas confondre l'amour qu'on ressent pour notre enfant à la naissance et le lien. Et enfin, moi, j'entends beaucoup de mamans qui me disent « Mais moi, j'ai pas ressenti d'amour à la naissance pour mon enfant. » Mais justement, la question qu'il faut se poser, c'est « Est-ce que c'est de l'amour que tu n'as pas ressenti ou est-ce que c'est le lien ?» qui s'est pas fait tout de suite, parce que souvent en fait quand on creuse souvent on se rend compte que c'était un accouchement difficile, un peu trop médicalisé peut-être, que la maman n'a pas été entendue, écoutée, on se rend compte que le lien ne s'est pas fait parce qu'il y a eu un stress qui est venu impacter cette création de lien. Donc Donc voilà, n'hésitez pas à vous poser la question dans ces moments-là. Est-ce que c'est le lien ou est-ce que c'est l'amour? Et vous verrez, souvent, c'est...
Ça amène quand même à se poser beaucoup de questions. Je nous entends sur les différentes émissions. Alors, posez-vous la question, faites le choix, ouais. Et tout ça, et tout ça. En fait, attends, on va essayer de redescendre le truc et se dire, il y a des choses qu'on nous a pas appris.
Oui,
donc,
ah oui, carrément.
Il va falloir se reconstruire. Donc, pour partir sur ces bases-là, c'est en amont de questionner son désir d'enfant.
Oui, exactement. Et ça, on en parlait il y a pas longtemps,
voilà,
il me semble.
Voilà.
Avant même d'avoir des enfants, pourquoi je veux des enfants et est-ce que je me sens prête à avoir des enfants?
Est-ce que je me sens prête à avoir des enfants? Mais pareil pour le conjoint. Et puis après, avoir questionné ce désir, questionner l'éducation qu'on a reçue aussi. C'est pas grave. Il va y avoir un espèce de conflit interne qui va se passer, qui va nous tirailler. Mais questionner l'éducation qu'on a eue, ça veut pas dire tout bazarder. C'est qu'est-ce que j'ai envie de garder? Quelles sont les valeurs que j'ai envie de garder? Quelles sont les valeurs que moi j'ai envie d'apporter? En fait, on contribue. C'est faire un enfant, c'est contribuer aussi à faire avancer d'une certaine manière, la famille, la société. Donc, qu'est-ce que nous, on a envie aussi, dans ce prolongement, d'apporter, en fait, d'une certaine manière, en sachant que l'enfant ne va pas tout prendre. De toute façon, c'est ça qui est magique aussi, et qui est magnifique, je te rejoins là-dessus, Clotilde, c'est, de toute façon, pour toute une fratrie, les enfants vont piocher dans les différentes valeurs, les différentes choses, les différents ingrédients qui les auront nourris. Donc, nous, notre but, c'est de faire un festin. C'est d'arriver avec une table et de dire, voilà, il y a de la compote, il y a de la salade, il y a des légumes, il y a telle chose. Voilà ce que je t'offre. Voilà ce que je peux t'offrir aussi, de ce que je suis en mesure de t'offrir. Ça permet aussi d'arrêter de culpabiliser sur « je fais pas assez ». Tu apportes ce que tu veux sur la table. Il se trouve qu'on n'est que végétarien, donc il n'y a que ça. Mais... voilà, ça t'empêche pas d'aller chercher dans tes ressources internes des choses que toi aussi tu peux t'apporter, aller te nourrir d'une certaine... et apprendre à se nourrir aussi.
Oui.
Pas à les vampiriser, mais apprendre à se nourrir pour pouvoir tisser ce lien. Alors je fais souvent le parallèle avec la cuisine, je suis vraiment désolée, c'est peut-être parce que je suis gourmande, mais, mais pour moi, faire le lien, c'est pour ne pas être affamée. Voilà.
Ouais. Et puis rester à l'écoute aussi de l'enfant, parce que l'enfant, en grandissant, il va exprimer des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé.
Bien sûr.
Et voilà, il va vous guider aussi. Il nous guide, nos enfants.
Et aujourd'hui, est-ce que ton fils te guide, justement, à 10 ans? Tu m'as dit qu'il avait, du coup, 10 ans,
oui,
Alexis.
Il a bientôt 10 ans, oui. Ouais. Il est né à 11 février, bientôt 10 ans. Ah oui, oui, il m'en apprend tous les jours. Des fois, je lui répète plusieurs fois les choses. Je lui dis, t'as des difficultés, mais tu vas t'en sortir, tu vas y arriver. Mmh. La dernière fois, il m'a dit, maman, ça fait 3 jours que tu m'en parles. Arrête, j'en peux plus. J'ai compris, maman, j'ai compris, je me débrouille. Ok. Très bien. Voilà. Après, oui, il apprend... bon, après, c'est l'aîné, c'est un garçon. Et il prend beaucoup de temps pour... il a du mal à lâcher, à être autonome. Puis des fois, ça lui prend comme ça, hop. Ok, c'est bon, j'y vais.
Oui, il a besoin d'avoir un temps de préparation pour pouvoir faire les choses. Mais ça fait partie de comment son caractère s'est formé aussi et de ce qui, pour lui, lui fait plus ou moins peur ou qu'est-ce qu'il est en mesure, là, à ce moment-là, de faire.
C'est ça.
Mais
après, on a
10 ans, t'as encore besoin d'être un peu dans le port d'attache. Ouais. Et en même temps, t'as besoin aussi de t'envoler.
T'es, on va dire, les fesses entre deux chaises.
C'est ça.
J'ai envie de grandir, mais en même temps, c'est bien de rester enfant.
Ouais, et en même temps, je pense qu'il y a aussi, moi je parle beaucoup de l'imaginaire collectif, mais autour de cette notion de préadolescence et d'adolescence. Ouais. Est-ce que c'est pas une construction adulte, juste pour pouvoir comprendre nous et digérer le fait que nos enfants entrent tout simplement en puberté?
Oui.
Parce qu'en fait, pour moi, les enfants sont pubères. Et donc, du coup, à un moment donné, bah, ils vont être adultes. Pour moi, il y a... Oui, on peut... c'est peut-être un jeu sur les mots, mais je trouve que des fois, on n'ose pas dire réellement ce qui se passe. Quand on dit « il est dans la préadolescence », alors bien sûr, ou dans l'adolescence, on imagine genre « oh, d'accord, en fait, du coup, quoi, c'est pas possible. Ouais, non, ça me saoule. » Voilà, ça, c'est...
flemme.
Ouais, flemme. Flemme, j'ai pas envie, quoi. Mais il se lève pas, mais enfin, il fait rien, il participe pas. Enfin, vous voyez, toute cette construction qu'on a dans notre société à nous, où on peut voir peut-être dans d'autres sociétés ailleurs, une autre construction de l'adolescent. Et en fait, peut-être que ce mot-là a été inventé juste pour nous contenir, nous, parce qu'on est là à popcorniser. C'est aussi un mot que vous m'entendrez souvent dire, mais à popcorniser total sur le fait que notre enfant est en train de changer. Et est-ce qu'on arrive ou pas à tolérer le fait que notre enfant grandisse?
Ouais, il y a ça aussi.
Et donc, ça re-questionne notre désir d'enfant. pourquoi est-ce qu'on voulait avoir un enfant ? Est-ce qu'on voulait avoir un enfant ou est-ce qu'on voulait juste avoir un bébé qui quitte pas le nid ? Ouais. Est-ce que, du coup, on avait peur d'être abandonné, d'être rejeté ? Parce qu'à un moment donné, ils vont nous dire non. Et quand on nous dit non, déjà à 2 ans, on est là genre, oh, bah dis donc, celui-là, il y a ça.
Et puis après, il y a, t'es la pire maman du monde.
Bah alors.
Ah, je n'ai pas eu ça.
Moi, je n'ai jamais eu ça, pire maman du monde.
Bah dis donc, vous avez bien de la chance.
Pas gentille, mais non, j'ai pas encore. Bah, elle va le dire à un moment, ma puce.
Ouais, à 2 ans. Moi, c'est, t'es la pire maman du monde ou j'ai envie de changer de maman. Ah, ok.
Très bien, bah écoute.
Non, nous, on a eu un jour, on voulait leur dire bah, d'aller se coucher, tout simplement. Ma grande qui m'a dit, de toute façon, c'est une famille de fous. Ah bon? Mais à 9h, tu vas te coucher.
Ok, on en reparle demain.
Oui, après, voilà, ça fait partie des choses où... Moi, j'ai un peu la vision de Dolto là-dessus. Alors, je sais, Dolto, et voilà, il y a des choses, je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Et il y en a d'autres avec lesquelles je suis d'accord. Sur le fait de... Le divertissement, là. À un moment donné, quand ton enfant, il te dit quelque chose et que tu le prends en rigolant. Tu le prends en faisant autre chose. Il y a des fois, ce n'est pas possible. Il y a des fois, tu es fatigué. Il y a des fois, juste... Voilà. Tu as envie de faire toute autre chose. Il y a plein d'images qui te viennent, qui sont très, très, très parlantes sur ce que tu aurais envie de faire à ce moment-là. Mais tu sais garder ton sang-froid. Et donc, à ce moment-là, même si tu visualises, essaie de faire, tu vois, ridiculous, quoi. Comme dans Harry Potter. Genre, hop. D'accord, ok. Imagine ton enfant en train de faire des rollers et de, je sais pas, moi, de partir ou de faire un truc. Ou ce soit toi qui devienne le clown à ce moment-là. Voilà, ça c'est quelque chose par contre que je retrouve beaucoup chez les papas, qu'ils arrivent beaucoup à sortir du cadre et à faire et à switcher vers quelque chose d'assez humoristique. Je dis pas que c'est tous les papas et je ne dis pas que les mamans ne le font pas non plus, mais simplement peut-être que dans notre construction sociale, on a laissé plus cette liberté-là au père de pouvoir faire ça et les mamans sont plus en train de gérer et du coup se prennent la tête. Des fois, peut-être que nous. Moi, souvent, ça m'arrive quand mes enfants me disent « Ah ouais, toi, tu faisais du scooter. Toi, tu t'aimais ça, en fait. Toi, t'étais fun, tu faisais des blagues. » Et là, c'est là que tu te prends en pleine face et tu dis « En fait, tu me vois comme une espèce de robot qui, tous les jours, fait ces tâches-là de manière répétitive et qui te donne les règles. » Mon fils, un jour, m'a dit « Maman, de toute façon, c'est toi qui donnes principalement les règles. Papa, il donne les règles aussi. Mais c'est pas pareil. » « Ah oui, d'accord. » Et c'est là que je lui ai dit « Mais en fait, maman, elle est aussi fun. »
Il n'y a pas que papa. Je vais aller faire du skate maintenant, tout de suite.
Oui, mais parce qu'en fait, si je ne m'autorisais pas, moi, à être fun et à sortir de mon cadre rigide, de mon manteau de maman, forcément qu'il ne voit que ça. Alors, ça heurte au départ. Mais en fait, à un moment donné, c'est bon, on va être un peu fun aussi. Ouais. Quoi. On l'est fun. Et c'est pas, ça veut pas dire que fun ne veut pas dire que tu mets pas de cadre. Ça veut juste dire que tu te donnes le droit aussi d'exister autrement qu'en étant maman, en étant un être humain qui est fun, qui a tous ses aspects, qui est femme, voilà, tu as plein d'aspects qui te constituent et tu n'es pas que maman. Sinon, le risque en fait, c'est de te dire que en étant que maman, quand après tes enfants partent, c'est quoi ton identité si elle s'est construite sur ta maternité.
Et puis c'est là qu'après t'as les mamans qui du coup ne supportent pas
leur belle-fille.
J'aurais pas dit les belles-filles, mais il y a des mamans qui font des dépressions parce que leur enfant part.
Oui, parce que c'est le syndrome du nid vide. On appelle souvent, on met tous les syndromes nous après derrière en disant mais c'est vrai, c'est juste un manque derrière parce qu'on n'a pas construit notre maternité sur des bases où les remettre en question. Ouais. Je parle encore souvent d'agora aussi, mais remettre en question, discuter, discourtir comme là on fait tout de suite sur quelle est la place de ma maternité, comment est-ce que je me positionne et comment je me positionne aussi en tant que femme dans cet élément-là.
Ouais. Après Alexis, je me souviens, je sais pas pourquoi, j'ai une image, il avait 2 ans et je lui apprenais souvent à respirer. Tu sais, tu lèves les bras, t'inspires, tu lèves les bras, t'inspires, tu lèves les bras. Et un jour, je me suis mise en colère, il m'a regardée, il était sur la machine à laver, je me souviens, face à moi. Il m'a regardé, il a fait « Attends, maman ». Il a levé mes bras, il a fait « Et du coup, toi, t'es là « Je vais te disputer hein, » pour toutes les images qui traversent. Mais t'es là « Non, je vais être zen de moi, mais je vais quand même pousser une gueulante parce que je suis énervée. » Et juste ça, mais tu redescends. Tu te dis « Mais c'est mon fils qui vient de m'apprendre à respirer. »
C'est là que tu vois que c'est ce qu'on leur montre qui est extrêmement important.
L'exemplarité,
voilà. C'est ça. Mais pas l'exemplarité en tout en haut où t'as aucun défaut.
Pas ouais.
Ah non.
Voilà, pas la perfection. Pas la perfection et pas être exemplaire. C'est la perfectude. C'est-à-dire que tu peux encore avancer. J'invente ce mot. Je vais le faire entrer dans le dictionnaire. Messieurs, mesdames, les académiciens.
Après popcornisé.
Vous allez en apprendre beaucoup. Mais n'empêche que du coup, c'est parlant. ça permet de se rappeler quand même de certaines choses. Donc popcorniser, vous savez ce que c'est. Peut-être que du coup, vous pourrez transformer ça quand vous aurez des visualisations un petit peu fortes à ce moment-là. Et d'imaginer qu'on n'est pas dans la perfection, mais oui, dans une forme de perfectude qui fait que tu peux encore parfaire les choses. Je donne la définition, en plus, c'est gratuit. Ok, je propose qu'on fasse une petite pause musicale.
Tout à fait.
Et qu'ensuite, on reprenne et ben, du coup, sur voilà, la suite... De ton expérience de maman.
Vous écoutez la pause maternelle sur Macalav, votre rendez-vous maternité mensuelle tous les premiers lundis du mois. Nous sommes aujourd'hui avec Clotilde qui est venue nous parler de sa maternité et de ses débuts, on va dire hors normes, parce que c'est pas ce à quoi on s'attend quand on est enceinte et qu'on accouche. Parce que ton fils Alexis a fait un séjour en néonat dans un autre hôpital que dans celui dans lequel tu as accouché. Et voilà, donc tu nous as parlé du lien qui a été difficile à se faire entre vous et lui, et non de l'amour qui n'était pas présent, parce qu'il était bien, là cet amour. Donc voilà, bah, je te laisse continuer.
En fait, est-ce que tu as envie de poursuivre avec Alexis ou est-ce que tu aimerais partir? Je sais que ça a été quelque chose, c'était un petit peu dur au départ, mais est-ce que tu as envie de poursuivre sur les autres membres de la fratrie?
Eh ben oui. Oui,
ok.
Oui. Tout à l'heure, pendant la pause, on parlait des mouvements un peu transgénérationnels.
Ouais, ouais.
Et tu vois, donc tout à l'heure, oui, on parlait de l'interruption de grossesse.
Tu prends ton temps, il n'y a pas de problème. Voilà ce que je dis à mes patientes. Si tu pleures, pleure bien. Parce que justement, ton émotion, elle se colle dans ta gorge. Et du coup, en fait, ça ne sortira pas et ça va rester bloqué là. D'accord ? Et ça risque de s'imprimer. Donc, il vaut mieux évacuer. Si tu as besoin d'évacuer, laisse couler les larmes, il n'y a aucun problème.
C'est gentil.
Si tu veux qu'on fasse une pause, n'hésite pas.
Et on peut faire une pause.
Bon. C'est bon. Oh, merci.
T'as un petit gâteau.
Oh, d'accord, je suis désolée. Merci beaucoup. Oui, non, du coup, voilà, j'ai fait une interruption de grossesse. Non, avant de faire l'interruption de grossesse, j'ai fait une fausse couche. Moi, j'ai tout fait. Du coup, quand on m'a dit, vous en voulez encore un autre, j'ai dit non, on arrête, parce que j'ai passé par toutes les étapes. Donc, après Alexis, il y a eu une fausse couche. J'étais un mois de grossesse. Et je me souviens, quand je suis revenue au travail, j'ai une collègue de l'époque qui m'a dit... « Oh, mais c'est pas grave, ça veut dire que tu peux en refaire d'autres. » Et là, je suis restée bête, je me suis assise et j'ai rien dit. Et de toute façon, après, c'était rupture conventionnelle parce que ça se passait pas bien. Et après, on a eu la grossesse pour Hugo. Et c'est marrant parce que on a une chatte à l'époque qui... elle était très câline, elle demandait à nous faire des câlins. Et à partir du moment où je suis tombée enceinte d'Hugo... jamais elle s'est approchée de moi. Elle montait pas vers moi, elle touchait pas.
Elle te laissait.
Oui, voilà, on se dit, bah, c'est peut-être parce qu'il y a un bébé et qu'elle a peur de faire mal. Mais pour ma fille Anaïs, elle était contre moi. Mais pour Hugo, elle se mettait à une distance et elle regardait le ventre, elle disait rien. Enfin, en même temps, c'est un chat, tu remarques.
Mais je suis assez d'accord.
Choses, les animaux.
Et puis surtout, ils ressentent comment toi tu te sens et ils viennent vers toi si au moment où tu en as besoin aussi. Enfin, je veux dire.
C'est ça. Mais après, moi, pareil, la grossesse pour Hugo, la grossesse pour Anaïs, j'ai vraiment vécu des trois belles grossesses. Ma fille, j'ai même bossé jusqu'à la fin, jusqu'à la veille de l'accouchement, parce que je touchais plus de cotisation assurance maladie, donc. J'étais là, ben non, je finirai ma mission. Et puis moi, ah ben non, je vais peut-être aller accoucher, tu vois. Enfin, je vais peut-être y aller, finalement.
C'est le jour J, je suis à contraction toutes les 5 minutes. Ouais, je vais y aller.
Allez, ça fait 2 heures, bon timing, allez, c'est bon, on y va. Allez, chérie, on y va. Et du coup, oui, pour Hugo, comment ça s'est passé? Bah, en fait, y avait plein de petits signes. Enfin, et le médecin, tu sais, il te fait ta première prise de sang pour voir risque de trisomie. Et là, il me dit, c'est bon, ça va aller. Et là, je sais pas, il y a eu un truc dans la tête qui dit, non, il y a un truc qui va pas. Mais pourtant, tout allait bien. Et après, il m'appelle pour me dire, non, écoutez, Madame Leblond, ça va pas. Revenez me voir, on va refaire la deuxième. Et moi, je pleure et je lui dis, mais il y a un truc qui va pas. Il m'a dit, non, mais c'est bon, c'est juste pour vérifier. Et quand il t'appelle un vendredi soir pour dire, non, écoutez, là, faut aller. Je vous ai pris un rendez-vous à la Croix-Rousse pour aller faire une amyosynthèse. On percute pas, en fait. Tu percutes pas, tu dis pas, tiens, il y a vraiment un problème. Tu dis, oh, ok, il y a un problème, mais c'est bon, c'est gérable. Et sur place, à la Croix-Rousse, encore, de toute façon, vu qu'on venait souvent pour notre fils pour des examens, on connaissait. Hein. Et là, ils te disent, préparez-vous peut-être à faire une interruption de grossesse et enterrer votre fils.
Ils te l'ont dit comme ça ?
Ils te le disent comme ça, en fait. Je pense que, tu sais, au bout d'un moment, de toute façon, ils se disent, ça sert à rien de reculer.
Oui, et de peut-être mettre vraiment, les formes de cette manière-là, ils ont besoin de le dire.
Ils ont vraiment fait comme ça au début, et puis à un moment, ils te disent, parce qu'en fait, on ne comprenait pas.
Oui.
Donc, mon conjoint, il m'a dit, mais si, au début, ils ont pris le temps, mais tu es là, mais je ne t'entends pas, en fait.
Oui, parce qu'il y a comme une espèce de bulle qui se crée autour, où là, c'est comme un... C'est pas que t'es pas tout à fait dissocié, mais t'es quand même dans une forme de sidération.
Ouais, c'est ça.
Et du coup,
c'est pas moi qu'on parle.
Exactement. Et du coup, ton cerveau fait ok. Il y a certaines informations qui rentrent, d'autres. C'est en fait qu'est-ce que tu es en capacité là tout de suite de gérer ou pas, de recevoir, pas de gérer. J'aime pas le mot gérer là. C'est pas de la comptabilité. Qu'est-ce que tu es en capacité de recevoir là à ce moment-là.
En sachant que déjà Alexis à sa naissance, on nous avait dit votre fils peut être handicapé mental, handicapé moteur. Donc là, tu te reprends encore une deuxième brasse. Tu te dis, mais c'est tout pour moi. C'est pas prévu tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Et après, tu as tout un lent cheminement pour te dire. De toute façon, on a dit, on va interrompre la grossesse parce qu'on ne voulait pas pour notre fils qu'il ait des problèmes de santé par la suite. Enfin, on nous a dit, de toute façon, il va être handicapé, il faut faire quelque chose.
Okay.
Et tu te dis, moi, j'admire les parents qui vont jusqu'au bout là-dessus.
Oui.
Ouais. C'est un amour, mais moi je dis j'ai de l'amour pour mon fils, mais je peux pas aller jusqu'au bout parce que derrière je sais pas comment il va le vivre.
Et est-ce que ça va être géré pour lui?
C'est ça.
Quelles sont les conséquences possibles? Et ça, c'est vrai que de toute façon, on ne peut pas juger cette situation-là.
Ce que j'allais dire. Il n'y a pas de bon choix en fait. Le seul bon choix, c'est celui que toi tu fais.
Exactement.
J'ai des copines, pile à cette période-là, j'ai des copines, j'en ai une qui venait d'arrêter sa grossesse pour son fils à 6 mois.
Ouais.
Avant Alexis, j'avais une copine qui avait perdu sa fille aussi à 6 mois. Donc, en fait, à chaque fois, tu te dis, ah tiens, il y a telle personne. Et ces personnes qui ont perdu, alors, dans ma famille, je dirais, on a reçu énormément de soutien de la part de ma famille à moi. Et c'est comme ça qu'on a appris qu'en fait ma tante, ma grand-mère, ma mère, ma belle-mère, ma belle-sœur, il y avait eu des avortements ou des interruptions de grossesse.
On parlait du transgénérationnel.
Ouais, que ça, que d'un coup t'as l'impression que tu viens libérer un nœud énorme et tout le monde en parle. Alors ma belle-mère, c'était très compliqué. Les autres membres, je n'en parlerai pas. Mais c'était un cercle. D'un coup, la parole se libère et j'ai l'impression qu'on a aidé les gens, qu'on a aidé ces femmes-là à guérir, à aller un peu mieux. Enfin, tu guéris pas.
Non, mais à penser les plaies,
à
se sentir légitime.
C'est ça. C'est vrai qu'on a pu compter aussi sur nos amis, encore une fois. Pour la naissance d'Alexis, on avait la famille, les amis, et là, on en avait encore... moins d'amis, parce que c'est quelque chose... t'en parles vraiment, t'es des amis très, très proches. Et petit à petit, t'en parles autour de toi. Et puis autour, on a eu des gens qui nous ont jugés, qui nous ont dit que fallait pas interrompre la grossesse. Ou alors, c'est bon, t'as arrêté, on va pas en faire un sketch. Et souvent, ces femmes-là qui te jugent comme quoi t'en fais un sketch, c'est celles... qui te disent qu'elles ont avorté de leur côté. Tu vois? Et là, tu dis, t'as le droit d'avorter de ton côté. Mais
si on pousse en profondeur, je poserai la question. Et du coup, comment vous l'avez ressenti? Comment ça s'est passé? Et là, j'essaierai d'entendre leur voix. à ce moment-là.
Mais voilà, c'est vraiment... T'as différents comportements, différents soutiens. Et j'ai surtout une amie qui m'est très chère et qui est la marraine de ma fille depuis, qui était là, qui m'a accueillie parce que mon conjoint a dû s'absenter. Et elle était là, elle m'a accueillie pour dormir. Mes parents ont géré notre fils le temps que j'aille à la maternité et tout. Et c'est vrai que c'était très, très difficile. Et il a fallu, avec mon conjoint, qu'on arrive à... Comment dire ? Qu'on arrive à s'entendre, qu'on arrive à communiquer. Parce que lui, il était plus dans le déni. Toi, au début, t'es dans le déni. Mais après, quand... Enfin, tous les deux, on est dans le déni. Mais toi, quand tu sors du déni, il faut que l'autre aussi te suive. Mmh. Et c'était très, très long. On a vu un thérapeute. On a eu des amis aussi avec qui on a échangé. Mais...
Par contre, ce qui est expliqué et très bon là-dedans, c'est que tu nous parles des trois cercles. C'est-à-dire que tu nous parles du cercle de la famille avec les amis très proches, du deuxième cercle avec les amis un peu plus éloignés, peut-être cousins et autres, en tout cas famille un peu plus éloignée, et le troisième cercle qui sont les institutions et les professionnels qui ont pu vous accompagner. Et à chaque fois, tu nous racontes qu'il y a eu un thérapeute, qu'il y a eu une sage-femme, ou qu'il y a eu un médecin, ou alors un ami de la famille, ou ma belle-mère. C'est important de comprendre ça dans la relation à l'autre, qu'on a besoin de ces trois cercles. Ouais. Et qu'ils interagissent les uns avec les autres. Parce que peut-être qu'on a pu recevoir une information de l'institution, et après, hop, on redescend sur le premier cercle et le deuxième cercle, et on va pouvoir en discuter. Et pas de la même manière. Ça permet aussi de raconter l'histoire avec différents objectifs, comme quand on est en train de regarder une émission, je sais pas, de journaliste, journalistique, et que du coup, à un moment donné, on pose la caméra sur cet angle, et après, on va la poser sur l'autre angle. Ça permet aussi de construire le truc à 360 et de se sentir un peu plus à l'aise aussi, d'accompagner et d'apprivoiser son deuil, s'il y en a un, pour pouvoir le construire son récit d'une autre manière. Même là, ce que tu fais, c'est déjà ça aussi, en fait.
Mais après, c'est quand même... je trouve que c'est très difficile.
Ah bah c'est sûr, mais parce que c'est pas... parce que déjà, il y a la notion aussi de... Je pense que je me bats aussi avec, c'est le fait de faire son deuil.
On ne fait pas son deuil.
Donc je vais le répéter encore, on ne fait pas son deuil. C'est en fait, le deuil se fait à travers nous. Le deuil agit. On l'accompagne. On peut ne pas l'accompagner, et souvent c'est plus douloureux. On peut l'accompagner et dans ce sens-là, aller trouver des outils qui vont pouvoir nous faire du bien, revenir à la base, dormir, manger, boire, se laver. Ça fait aussi partie des choses qu'on oublie lorsque du coup on est dans des périodes difficiles, et veiller à sa sécurité. Et donc c'est là que rentrent les trois cercles, dans ce rôle-là de sécurité, d'avoir de la bienveillance et tout ça. On a besoin de ça dès qu'on est bébé. Oui. On en a besoin tout le temps, en fait, de ces phases-là, d'avoir les besoins fondamentaux qui sont remplis et de pouvoir se nourrir aussi là-dessus. Je reviens sur le festin encore une fois, mais d'avoir aussi cette possibilité d'être accompagné, de se sentir en sécurité. Mais n'essayez pas de partir en guerre contre votre deuil, parce que ça ne passera pas de cette manière-là. Oui. Pire, ça va ralentir le processus de cicatrisation. C'est comme si on mettait du sel sur une plaie et qu'on disait « c'est bon, ça va bien cicatriser ». Jamais on fait ça. Jamais on fait ça. On désinfecte. Enfin, déjà, on met de l'eau, du savon, on désinfecte. Et ensuite, on met un pansement. Ou alors, on laisse sécher à l'air libre. Mais on laisse sécher.
Le pansement, c'est comme si tu...
Voilà,
tu
comme si on cachait, on camouflait. Ça, ouais. Mais en fait, il vaut mieux laisser à l'air libre. Et laisser à l'air libre, ça veut dire aussi en parler lorsqu'on ressent l'envie d'en parler et ne pas en parler lorsqu'on n'a pas envie d'en parler. Enfin, c'est juste être en lien avec soi-même. Et ça va... avancer.
Et j'aimerais approfondir un peu au sujet du deuil, parce que souvent on voit le deuil comme quelque chose qui arrive quand il y a un décès. Mais en fait, le deuil, c'est la perte de quelque chose. C'est pas forcément un décès, ça peut être la perte de plein de choses, ou la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Oui. Donc on vit des deuils tous les jours.
Oui, des phases d'attachement et de détachement.
C'est ça.
Ça, c'est important de comprendre aussi cette phase-là, cette ambivalence. Dans notre vie, on va connaître des phases où on va s'attacher à un objet, à un autre, à un être humain ou animal. Et à un moment donné, on va se détacher. Dans la relation à nos enfants, on s'attache et petit à petit, le lien reste, mais il y a une forme de détachement aussi pour pouvoir continuer sa vie et que lui puisse grandir, avancer, continuer aussi et
voler
que ça perdure.
De ses propres gènes.
Exactement. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est quelque chose qu'on vit tous, on va tous le vivre. Et on le vit tous, même petit en fait.
Oui.
Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcer le détachement. C'est pour ça que je dis forcer le deuil, forcer le fait qu'on fait son deuil. Si on part en guerre contre soi-même, on est perdant.
Ouais,
on est perdant parce que le corps va se mettre en mode survie. Et le corps, il veut survivre. Et là, c'est une autre thérapeute qui m'avait dit ça. Il va vouloir survivre, mais même si c'est au péril de ta vie.
Ouais.
Il va t'aider, hein. Il va t'aider à survivre, il n'y a pas de problème. Il aura mis tous les feux, vont être au vert, jusqu'au moment où il va faire rouge, fin.
Stop.
Parce que c'est pas possible. Et c'est là qu'on a des burn-out, c'est là qu'on a des crises.
Des maladies.
Certaines maladies aussi, parce qu'il ne faut pas enlever tout ce qui est psycho-émotionnel aussi et environnemental. Enfin, c'est multidimensionnel aussi la maladie, donc j'aime pas trop rentrer là-dedans parce que c'est pas parce que tu vas être triste pendant une période ou parce que tu auras été en souffrance pendant une période que tu vas forcément avoir une maladie. C'est multidimensionnel et je retiens à le dire ici. Mais ça peut être beaucoup plus difficile, en fait. Donc, on va essayer de faire les choses simples et de ne pas complexifier les choses, donc de mettre en place de la simplexité. Ce mot-là existe, je ne l'ai pas inventé.
J'avais posé la question.
Non, celui-là, il existe. Allez chercher dans le dico, il existe. Mais du coup, de simplifier les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas les choses de manière dure, mais voilà, on va simplifier et on va prendre ce qu'il y a. Et des fois, dans le deuil, on peut rire à des moments où on se dit... je viens de vivre un drame ou une phase de détachement de quelque chose, une fin de cycle, et en fait je suis en train d'en rire, mais c'est le deuil qui est à l'œuvre en fait, parce que il y a toutes les émotions, je le dis, elles existent.
Petite
toutes.
Pause ASMR.
Elles sont là autour de nous, elles sont toutes là. Ah oui, on peut faire des pauses ASMR comme ça. Mais c'est comme dans le film avec Bruce Willis où il dit je vois des... Voilà, c'est pareil. Et ben, en fait, il y a des émotions partout. Et il faut les laisser vivre parce qu'elles sont là pour nous accompagner et pour nous protéger. Mais si on empêche les émotions et le processus biologique, sociologique et psychologique de se mettre en place, et ben, on lutte contre. Et là c'est très compliqué. On lutte contre soi et c'est très compliqué. Petite pause musicale.
Ouais, on va vous proposer une petite pause musicale et on revient après avec le titre.
C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire. Mais d'autres ont disparu d'un seul coup sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord. Car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors on s'est regroupé d'un réconfort utopiste. À plusieurs on est plus fort mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là à l'esprit, dans nos souvenirs. Sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était.
Nous sommes de retour sur la pause maternelle sur Macalad avec Clotilde. Je te laisse continuer par rapport à Hugo, ce que tu nous racontais, comment tu as vécu la suite des choses.
Par rapport à Hugo, si on a beaucoup culpabilisé quand tu dois prendre le cachet pour interrompre. Oui. Ça, c'est assez violent. Et figure-toi qu'un jour, on a vu une énergéticienne par la suite. Alors, j'étais enceinte de ma fille Anaïs, donc quelques mois plus tard. Et elle me dit, mais naturellement, elle me dit, mais vous savez, votre fils, vous avez pas pris vous avez pris le cachet, mais il était déjà parti.
Ok.
Et là, mon conjoint, il m'a regardé, il m'a dit, waouh, ça veut dire que c'est pas à cause de nous qu'il est parti. Mm. Et là, tu dis, ah oui, d'accord. Tu te sens moins coupable. Parce qu'en fait, c'est ça, le fait de prendre un cachet, ça te fait culpabiliser. Tu dis, bah, je contribue à le faire partir.
Et en fait, si je te traduis, ce que tu veux dire, c'est je l'ai tué.
Voilà.
Oui, parce que voilà, rappelons-le, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que dans ces moments-là, il y a ce fameux cachet qu'on te donne pour arrêter le cœur du bébé.
Mais c'est ce que j'ai dit au gynécologue qui me suivait à l'époque, qui est à la retraite, mais qui était une pépite, ce monsieur. C'était vraiment c'est une pépite. Et il me donne le cachet avec un verre d'eau et il me dit, bah, je suis obligée de rester avec vous pour que vous le preniez, en fait. Ok. Et je lui dis, là, vous venez de me donner mon cachet et je vais tuer mon bébé.
C'est pour ça que je sais, ça peut être un peu cru. Je sais, peut-être pour les personnes qui entendent, ils se disent, putain, elle est crue, elle est rude.
C'est une réalité.
Mais
c'est violent.
D'expérience et personnelle. Et pour l'avoir vu aussi en séance, des fois, juste poser les mots, ça permet de... Voilà, bah oui, c'est ce que je pensais à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là.
Ça permet de légitimiser ce que maman elle ressent.
Voilà. C'est ça. Et bah lui, du coup, il savait pas quoi dire. Parce qu'il va dire, bah, il peut pas dire, bah oui, vous êtes en train de tuer votre bébé, en fait. Enfin, tu peux pas lui demander d'arriver jusqu'à ce seuil. Et par contre, il y a eu vraiment des signes, je dirais. Pour moi, la spiritualité, c'est très important, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et c'est marrant parce que quelques jours avant d'avoir les résultats par rapport au fait que notre fils était handicapé et que ça allait être compliqué pour lui par la suite, je me souviens d'un rêve. Alors, mon grand-père paternel, j'avais très très peu de contact avec lui. Il est décédé, je suis allée à son enterrement, mais il n'y a aucune émotion, rien du tout. Et je me souviens qu'une nuit, j'ai rêvé qu'il me prenait dans ses bras et qu'il me disait « ça va aller ». Tu te réveilles, tu fais « mais c'est quoi ce truc ?» Et j'avais une copine, une autre de mes amies très très, qui était d'un soutien énorme aussi. J'avais un bracelet que mon conjoint m'avait offert il y a quelques années et elle m'a offert une petite croix. Elle m'a dit, tiens, c'est pour Hugo, en mémoire d'Hugo. Et j'avais aussi la petite médaille de la Vierge. Et là, je me souviens, Hugo aurait dû naître. Enfin, sa naissance était programmée le 24 juillet 2021. Non, 2022,
d'accord.
C'est ça, parce que 21, c'était ma fausse couche. Et 2022, donc sa naissance était programmée le 24 juillet 2022. Et la nuit du 24 juillet, mon bracelet, il s'est ouvert. Et la petite croix et la Vierge sont tombées. Comme si c'était, c'est bon, tout va bien, je suis là, je veille sur vous. Je sais pas, j'ai ressorti vraiment comme un beau message spirituel. Et Anaïs est arrivée, je suis tombée enceinte un mois après. Sauf que Anaïs, on n'avait pas du tout programmé, on s'était dit, bon, bah, voilà. Mais cette grossesse, ça a été difficile dans le sens où, pour moi, c'était... Tu culpabilises tellement par rapport au bébé d'avant, à Hugo, que ma grossesse, j'en ai profité sans en profiter.
Est-ce que tu étais toujours dans une forme un peu... roue du hamster à repasser les images ou avoir la peur, peut-être dans l'anticipation, d'avoir peur que ça se passe mal
alors,
pour
l'avantage,
Anaïs.
Bah, l'avantage, malheureusement, enfin l'avantage qu'on a, c'est que vu tout ce qu'on avait vécu, on a été suivis vraiment très régulièrement. Et dès que j'avais un doute, je pouvais les appeler. Bah, combien de fois j'ai débarqué en panique alors qu'en fait, tout allait bien. Mais ils sont, la clinique d'Arnas, ils sont super gentils, super à l'écoute. Ils m'ont suivi par rapport au deuil, par rapport à Hugo. J'ai eu des séances d'hypnose, j'ai eu un psy.
Ah ouais.
Voilà, mon conjoint, lui, était encore dans le... Il avait du mal, mais il a évacué autrement, tu vois. Mais moi, j'ai dit, tout ce qu'on me propose, je prends, parce que si ça peut aider à avancer. Et après, du coup, pendant la grossesse d'Anaïs, Anaïs, la pauvre, je suis tombée sur le ventre, j'étais enceinte de 6 mois, quoi. Elle a tenu, hein. Ah ben, c'est une warrior, ma fille. Hein. Et tu vois, maintenant, elle est là, je suis là, quoi. Et c'est vrai qu'on lui parle de son petit frère. On l'emmène avec nous sur la tombe, parce qu'il y a une tombe à Arnas.
Okay.
Ah oui, on l'a emmenée. Elle sait qu'elle a un petit frère qui s'appelle Hugo. Un grand frère qui s'appelle Hugo. Voilà, c'est son grand frère et on sait qu'il veille sur elle.
Merci beaucoup Clotilde pour ce chouette témoignage qui, oui. qui met encore une nouvelle fois en lumière des choses qui sont rarement racontées. C'est essentiel d'avoir ce genre de témoignage, alors encore merci. Et puis bah, nous on se retrouve tous les premiers lundis du mois à 10h sur la pause maternelle pour un nouveau témoignage. Oui. Et puis bah, si toi aussi tu as envie de venir témoigner et nous raconter ta maternité, n'hésite pas à venir nous écrire à lapausematernelle@outlook.com. Jusqu'à maintenant je me trompais, donc c'est bien .com l'adresse mail.
Voilà, voilà. Alors,
si vous n'arrivez pas à nous écrire, c'est la raison. Voilà, mettez .com.
Si vous n'avez pas de retour, c'est normal.
Merci beaucoup Clotilde d'être venue. Merci Elodie.
Merci.
Et Lucille. Puis, ben, au mois prochain.
Au mois prochain. La pause maternelle.